RCF.
Les enfants restent en moyenne beaucoup plus longtemps chez leurs parents et puis un jour ils finissent par s'en aller pour voler de leurs propres ailes. Le départ des enfants du nid familial est tout ce qu'il y a de plus naturel et pourtant ce passage n'est pas toujours facile à vivre d'un côté comme de l'autre. Comment décrypter ce qui se joue dans cette étape du départ ? Quel remaniement intérieur cela entraîne-t-il sur le père, la mère et sur les enfants ? Comment traverser sereinement cette étape cruciale ? Pour répondre à ces questions, je reçois Colette Combe. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes psychanalyste, auteur de plusieurs livres, notamment sur l'anorexie et la boulimie, paru chez Duno. Le départ des enfants, ça fait partie des grands passages de la vie ?
Oui, c'est même une nouvelle naissance. On peut dire que la mère accouche à nouveau de ses enfants à ce moment-là. C'est aussi périlleux, aussi douloureux pour elle qui le vit comme le risque de mourir, comme dans un autre accouchement. Bon, les pères maintenant sont souvent tellement attachés presque physiquement, affectivement et beaucoup plus corporellement qu'auparavant à leurs enfants qu'ils vivent eux aussi cette attente et cette transformation de façon très profonde.
Alors les pères surinvestissent beaucoup les enfants, les mères aussi. D'ailleurs on voit de plus en plus d'enfants jeunes, adultes, rester longtemps à la maison. Et là la donne change puisque le temps passé avec les parents est beaucoup plus long, donc séparation plus difficile.
Complexe parce que les jeunes adultes ont dû pendant des années, alors qu'ils auraient normalement l'âge pour travailler et l'âge pour avoir des enfants, ils n'ont pas les finances pour fonder une famille. Ils vivent donc un temps qui est très très désarmant pour eux actuellement. Et la génération des parents, d'une certaine façon, accompagne la détresse des jeunes adultes qui ne peuvent pas encore prendre la place qui leur reviendrait et en même temps se sentent coupables d'une certaine manière aussi de cette dépendance qui continue. Ce qui fait qu'ils ont une attitude par rapport à cette dépendance qui souvent est d'amortir et de trop amortir les choses. Alors on a l'impression que jamais ça ne se défera et au lieu de pouvoir laisser partir leurs enfants beaucoup plus jeunes, autour de la vingtaine d'années, en étant fiers qu'ils travaillent, qu'ils fondent une famille, tout ça se retarde.
Donc on comprend bien qu'il y a des processus qui sont plus lents qu'autrefois. Quand on regarde les textes fondateurs, la Bible par exemple, l'homme quittera son père et sa mère, et donc c'est nécessaire, ça fait partie des passages nécessaires. Ça se vivait plutôt autrefois alors ?
Oui, je pense que du coup, ça se vivait dans l'effervescence de faire ses preuves, de montrer ses capacités. Là, les capacités sont là depuis longtemps et la sexualité existe depuis longtemps, souvent, quand ils partent. Ils ont donc aussi vécu le fait d'affirmer leur capacité d'un lien amoureux, déjà. C'est pas on part et après on affirme ça. C'est assez déroutant aussi pour cette raison.
Alors on sait que quand on a des enfants, un jour, il faudra bien qu'on le laisse, on la laisse ou le laisse partir. On peut se préparer à ça ?
Moi, je dis souvent aux jeunes adultes que c'est à eux de préparer leurs parents. Que c'est à eux, c'est la première fois que le vécu d'un renoncement est initié par l'enfant, qui lui coupe. Et que les parents, il faut faire confiance que les parents vont se remanier, se transformer au-delà de cette coupure, mais que eux ne peuvent pas l'initier. Alors qu'avant, ils ont un nombre incalculable de fois dit à leurs enfants, tu es trop grand maintenant pour telle chose, c'est fini. Le pouce, c'est fini, prendre ta douche avec tes frères et sœurs, t'es trop grand, enfin, etc. Tandis que là, finalement, le sevrage, où Françoise Dolto, elle aurait dit la castration symbolique, doit venir de la génération d'en dessous. Et il y a donc un renversement de génération aussi dans cette période. Et ça touche la fierté des parents. Alors eux, pour eux, ce que je dis moi souvent pour les aider et à le penser, c'est que bientôt, ils seront grands-parents et qu'ils vont avoir cette joie extraordinaire de connaître une relation avec des enfants qui n'est pas faite de la responsabilité, mais de l'émerveillement de voir grandir. et que, eh ben, pour que ça arrive, il faut avant qu'ils renoncent à considérer leurs propres enfants comme des enfants.
Donc là, on est vraiment dans la place, dans la génération, le respect des générations.
Oui, c'est quand même une des choses les plus fondatrices et de la famille et de la société et de la structure de l'individu. Donc, dans cette période, les parents vont se remanier une nouvelle fois pour qu'il y ait un tiers dans leur tête. Ce tiers, c'est l'arrivée de la génération d'après. C'est penser leur ascendance et leur descendance. Donc, c'est penser leur vieillissement et leur mort dans la relation à l'humanité, à la civilisation, en disant que ce qu'ils ont à préparer, c'est la suite et ils auront à transmettre des choses qui viennent de loin, de leur propre enfance, à leurs petits-enfants. Et donc, on voit que la continuité, le passage de relais, va pouvoir se faire grâce à cette période, sur le moment, très douloureuse de se séparer. Et que s'il n'y a pas séparation, il n'y aura pas ce temps. Il va y avoir étiolement de la relation parent-enfant, végétation des jeunes adultes, ne pouvant pas ouvrir leurs ailes, sera rétrécissant. Et donc, il faut trancher. Et avoir confiance. Faire confiance que, au-delà de ce saut dans l'inconnu, et qui donne une impression de chute, comme si on n'est pas sûr en tant qu'adulte déjà d'un certain âge d'ouvrir les ailes encore grand pour s'appuyer dessus et pour se voler dans ce nouvel espace, il faut faire confiance que c'est possible et que ça va venir.
Repère RCF.
Colette Combe, nous parlons avec vous des enfants qui quittent la maison. On appelle ça le syndrome du nid vide. Est-ce que les mères, je suppose que les mères ont davantage de difficultés à lâcher les enfants?
Je pense qu'elles ont un lien premier avec leur enfant de corps. Donc c'est une séparation de corps. Je crois que c'est aussi douloureux pour elles qu'un divorce avec leur conjoint. C'est vraiment une séparation qui touche au fond des fibres, dans leur chair. Si elles ont elles-mêmes, dans leur vie, eu d'autres séparations importantes, cette séparation avec les enfants va faire résonner l'ensemble des séparations précédentes.
Donc ça fait écho à d'autres séparations.
Oui. Et donc là, je pense qu'une des choses qu'on doit penser dans cette période en tant qu'adulte, c'est se demander si c'est réellement la séparation actuelle qui fait souffrir si fort ou si c'est pas parce que ça réveille d'autres ruptures, d'autres pertes de continuité de la vie à d'autres moments. Des deuils, un changement de pays, la perte du pays natal, une perte de travail, une perte d'amis importants.
Donc dans cette période peuvent ressurgir les deuils non assumés du passé.
Oui, et même pas seulement ressurgir, mais devenir plus douloureux qu'avant. Hein, puisqu'il y a un effet traumatique de la séparation, du fait des séparations très douloureuses passées, et ça rend plus traumatique le passé pendant un temps. Il va donc falloir créer une nouvelle résilience, comme dit Cyril Nick, pour trouver à remanier le passé et à nouveau s'en séparer une nouvelle fois. Ce passé peut avoir été enfoui, presque oublié, et revenir là avec beaucoup de reviviscence.
Mais comment, justement, bien distinguer ce qui est de l'ordre du passé et ce qui est de l'ordre du présent? Et comment démêler tout cet écheveau qui doit être brouillé, justement, entre le passé et le présent, au moment où les enfants partent?
Peut-être faire l'inventaire des pertes sur le moment, de se laisser aller à se dire à soi-même ou à dire à quelqu'un de proche tous les sentiments de perte qui viennent. Et savoir que les pertes sont parfois associées à des hontes ou des culpabilités. Parce que chaque fois qu'on est vulnérable, on a la tendance à penser que ce qui nous arrive c'est de notre faute, ou presque d'avoir honte de la fragilité. Donc, ça peut se présenter sous la forme de regrets concernant les enfants. Ah, je n'ai pas avec eux vécu ça et c'est trop tard. Je n'ai pas pris soin de telle ou telle chose. Donc, il y a tout un retour comme dans tous les deuils, puisque là, c'est un travail de deuil, le départ des parents, des enfants. Il va y avoir un retour de remords et de regrets. Je faisais un lapsus en disant le départ des parents, c'est que parfois ça s'associe au départ des parents, enfin que plusieurs deuils se présentent en même temps et que dans cette période la génération d'au-dessus peut être déjà bien âgée ou voilà, ils vont pas tous pouvoir être arrière-grands-parents des enfants qui viendront après.
Vous parliez des émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là du départ des enfants. Ces émotions, c'est important de les laisser venir, de les nommer.
Oui, parce que c'est en touchant le fond, en les parlant. Parler fait penser, oh, ça va être pire, je vais toucher le fond. Mais tant mieux, parce que en touchant du doigt ou en touchant le fond, en voyant vraiment la plaie, la blessure, on peut remonter. Et on peut soigner la blessure. C'est même un trajet mort et résurrection, si on peut dire, une nouvelle fois. On en fait plusieurs fois dans la vie. Et là, il y en a un. Donc c'est important, du coup, de revoir le passé pour s'ouvrir sur l'avenir. Et pour accepter qu'on ne sait pas forcément comment on va se remanier. Alors il y a des adultes qui pensent longtemps à l'avance à ce départ, à ce nid vide qui va venir et qui commencent à créer de nouveaux investissements, à remplir le nid d'autres occupations, d'autres engagements, d'autres bonheurs.
Ça peut aussi passer par un réaménagement concret des lieux pour réaménager.
Oui, pour se sentir dans sa nouvelle maison intérieure et dans sa nouvelle maison, non pas avec des pièces qui deviennent désinvesties ou qui sont remplies des souvenirs des enfants, mais vraiment en se disant, cet espace, comment je vais maintenant le transformer, le vivre et de quoi je vais, qu'est-ce que je vais en faire? C'est quand même un temps aussi, cet espace de temps nouveau, qui n'est pas là forcément pour longtemps, puisque le travail de grands-parents dans nos générations où les femmes travaillent est parfois important, autant pour les grands-pères que pour les grands-mères. Et là, il va y avoir quelques années de temps pour soi. Donc, d'une certaine façon, c'est parfois presque une adolescence qui vient dans cette période. On voit des personnes se sentir d'une vigueur, d'une avidité, d'un goût pour des choses nouvelles et pour se refaire un temps de jeunesse. On appelle parfois ça la seconde adolescence, 50, 60 ans, la seconde adolescence maintenant. Et c'est vrai que des choses qui n'ont pas pu se vivre dans la première peuvent se vivre dans cette période.
Colette Combe, nous avons vu que les mères vivent particulièrement ce départ des enfants, touchés dans leur chair parce que ce sont des enfants qu'elles ont vu naître, qu'elles ont elles-mêmes élevés. Alors la place du père, elle est importante aussi. Comment le père vit cette réalité du départ?
J'ai pas souvent de témoignage direct d'un éprouvé de tristesse. Ils sont beaucoup plus centrés sur la vie sociale de leurs enfants, préoccupés
de leur réussite,
comme on dit actuellement, mais plutôt souvent, j'espère qu'on peut mieux dire, de leur épanouissement et de leur réalisation dans la vie sociale. Donc ils sont plus dans l'action, plus dans le concret, ils se situent moins dans la nostalgie, je pense.
Mais comment peuvent-ils aider alors?
Oui, j'ai envie de dire qu'ils ont vraiment à tenir leur place auprès de leur épouse dans cette période, parce qu'elles sont tellement vulnérables comme après un accouchement qu'elles sont déprimées et que si ils ne sont pas vigilants, ils vont recevoir des pluies de reproches. C'est eux qui vont recevoir le paquet sous la forme de colère, de déception, de sentiment d'être abandonné, de plus être aimé, de plus être regardé. Donc c'est une période où plus ils sont capables d'attention, d'être amoureux, d'avoir des idées, de sortir ensemble, des idées nouvelles, mieux ça va se passer.
Repère, Béatrice Soltner.
Colette Combes, quand les enfants quittent la maison, c'est un défi pour le couple parce qu'il y a une redistribution des rôles peut-être, en tout cas des places. Quel défi le couple doit relever prioritairement dans cette période ?
Le fait de communiquer, je pense, et de s'ouvrir sur l'extérieur. Plusieurs cas de figure possibles. Quand la mère ne travaillait pas, elle est vraiment dans un fond de cale, quoi, dans cette période, puisque tous ses investissements sont en train de disparaître. Et elle a donc besoin vraiment d'être, on dit en termes psychanalytiques, renarcissisée, enfin d'être revitalisée d'admiration de la part de son époux pour pouvoir refaire surface et retrouver la vitalité d'engager, de s'investir dans d'autres choses. Autre cas de figure difficile, celui où ça correspond à une période de difficulté professionnelle de l'homme, puisqu'actuellement, un certain nombre d'hommes de la tranche d'âge 50-60 ans connaissent le chômage, connaissent avant le chômage l'angoisse du risque de perdre leur travail. Donc ils ne sont pas toujours forcément très disponibles pour voir ce qui se passe, ou bien chez leur épouse, ou bien ils sont, eux, déprimés du départ des enfants parce qu'en plus, il y a ça. En plus, il y a, à côté de la difficulté professionnelle, il y a ça.
Ça rajoute.
Troisième cas de figure, les femmes souvent se débrouillent mieux dans cette période pour conserver leur travail, peut-être parce que c'est pas le même genre de responsabilité parfois, mais c'est pas toujours le cas. Je pense qu'aussi le vieillissement n'atteint pas l'homme et la femme de la même façon dans cette période. Et la perte d'énergie physique est plus sensible chez un homme qui perd toute sa vigueur. Une femme, ça fait des années qu'elle a des moments de fatigue, les accouchements, les règles, elle connaît la fatigue et donc elle n'a pas à s'adapter dans cette période à une fatigue tellement plus considérable qu'avant, même souvent elle en a moins.
Alors que l'homme doit connaître d'autres rythmes, s'adapter à d'autres...
Oui, il est vraiment dans une transformation de son rythme, dans une transformation de sa musculature, de sa relation à son corps, qui soit prend du poids, soit est moins solide pour tout ce qui faisait la différence homme-femme. Ça, je vais le faire puisque toi, tu peux pas. Voilà, ça change. Donc... On peut dire que souvent le départ des enfants vient en même temps qu'un autre contexte, un de ces contextes que j'ai évoqués, mais il y a aussi la question de la séparation liée au divorce et de la solitude dans les cas de divorce. Tout ça va faire que reconsidérer la relation homme-femme, c'est une très bonne occasion. Et la différence homme-femme et la complémentarité, puisque là il y a une complémentarité mais qui n'est plus la même qu'avant. Il y a ce que je viens de dire sur la différence physique, la femme qui devient plus résistante dans cette période, par exemple.
Donc il y a un travail de réorganisation interne,
oui,
dans le couple.
Oui.
On repart pour une autre tranche de vie, là.
Oui, et je suis touchée par le fait que souvent les femmes vont exprimer la menace en disant « si tu continues comme ça, moi je te quitte ». Ce qui veut dire si rien ne change alors que les enfants partent. Voilà, il y a cette envie de secouer le couple et frapper aussi de voir que quand l'homme est capable de tenir sa place d'homme, c'est vraiment une période de bonheur qui commence et parce qu'il y a plus de temps pour la vie amoureuse, il y a plus de temps pour les amis, pour les relations avec d'autres. Et ça peut être une reconstruction ou presque une première construction au-delà du temps où suroccupé par et les vies professionnelles et le travail et les enfants, il y a le temps de se parler, le temps de s'expliquer, de réparer un certain nombre de reproches d'autrefois simplement par le fait de jouer la carte, de pouvoir se dire sans tout de suite se sentir attaqué ou avoir le mouvement de se justifier.
Colette Combes, le départ des enfants, c'est une étape. La relation perdure avec ces enfants qui sont soit proches, soit très loin. Quelle relation avoir? Parce que entre la fusion et puis l'oubli, il doit y avoir un chemin là, vivant. Quelle relation avoir?
Je dirais qu'en fait, cette question, elle préoccupe plus les parents que les enfants. Et que les enfants de maintenant sont souvent des enfants affectifs parce qu'ils ont été beaucoup entourés. C'est pas eux qui vont tellement être inquiets du changement de séparation. Je crois que ils savent montrer quand ils s'éloignent qu'ils pensent à leurs parents. Mais je pense que les parents parfois font d'énormes gaffes.
Par exemple,
du genre faire des reproches, tu m'appelles pas, tu me dis pas ce que tu fais, on sait plus rien de toi. Enfin, le reproche avant la discussion ou avant l'échange. Plus l'échange peut être un échange curieux et non pas comme s'ils essayaient de tenir encore la couverture pour dire « tu m'appartiens », plus c'est « qu'est-ce que tu vis maintenant raconte-moi un petit peu », mais avec les oreilles ouvertes, parce que si la même question est posée en n'écoutant pas et en faisant des reproches de phrases plus loin, évidemment, ça donne pas l'envie aux jeunes adultes de raconter quoi que ce soit de leur nouvelle vie. Donc je crois que c'est surtout, je dirais, ouvrir les oreilles, être capable d'écouter, qui est à développer dans cette période. Être capable d'être curieux sur la façon dont les jeunes générations voient le monde. Si on les branche là-dessus et non pas qu'on leur demande qui ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., mais qu'on leur demande comment ils voient l'avenir de la société, de la civilisation, de l'humanité, de la Terre, enfin toutes ces questions dont ils sont porteurs, eux, en ce moment, et qu'on a confiance dans le fait qu'ils vont trouver des solutions que la génération d'avant n'a pas pensé, pas trouvé, parce qu'elle n'était pas confrontée à la même chose, là, ils ont envie de dire.
Mais il y a des parents qui veulent tout savoir, qui sont intrusifs dans leur manière soit de téléphoner, soit d'envoyer des mails.
Oui. Oui, je pense que c'est comme au début de l'adolescence, il y a à nouveau à respecter l'intimité. Au début de l'adolescence, il faut respecter la salle de bain, la chambre, les placards. Eh bien là, au niveau du téléphone et des mails, il y a vraiment quelque chose à apprendre d'un respect et de pas... parce qu'on peut presque dans l'immédiat entrer en contact avec l'autre, lui demander de répondre immédiatement. Donc moi, je dis souvent aux jeunes adultes, prenez l'habitude de laisser ce de ne pas répondre. Et puis, on rappelle. On ne sait pas parce qu'il y a un mail qu'il faut répondre tout de suite ou ce n'est pas parce qu'il y a un appel sur le portable qu'on doit répondre tout de suite. Il faut réapprendre la latence, réapprendre à différer et savoir que on fait signe. Enfin, en tant que parent, on fait signe et on dit « Tiens, j'aimerais avoir tes nouvelles. » Et puis, voilà. Ce n'est pas pour ça que la réponse est sur le moment où... Moins il y a de culpabilité, mieux c'est chez les jeunes adultes aussi de pouvoir se dire non, je suis en train de faire autre chose, je ferai signe après. Il y a vraiment une relation au temps avec les nouvelles, avec la webcam, avec tout ça.
Mais c'est une assaise à laquelle vous nous invitez parce qu'on peut aller tellement vite pour appeler, pour réagir.
Oui, oui. Et c'est vrai que c'est très différent des courriers et que finalement, les courriers. C'est intéressant aussi. Donc, si les mails peuvent prendre l'allure de courrier, ce qui suppose de modifier la façon de les écrire aussi, d'être moins dans le fait de l'immédiat, mais dans le fait de pouvoir mettre en récit, c'est-à-dire raconter, et non pas faire des brèves, si on peut dire. Je crois que l'art de la communication, il nous faut l'essayer et la penser avec les nouveaux moyens. Ça s'apprend. Et ce qui s'apprend d'abord, c'est à restituer dans le temps ces deux aspects, savoir attendre et savoir reparler après coup, pas forcément sur le moment.
Colette Combes, un grand merci.
Merci.
À bientôt sur RCF.
Au revoir.